ceux qui le désirent ou le peuvent se lever pour le temps de louange. Je t'essaie à garder à l'esprit pendant ce temps qu'on chante sa majesté, qu'on veut le louer aussi pour l'unité qu'il nous donne, l'unité qu'on a par son Saint-Esprit.
J'aime ta présence, présence, mon bien-aimé, ton amour est là, puissant infini, et ton amour est là. De la croix, ton amour est là, et son amour. J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, mon bien-aimé.
Ton esprit est là.
Et ton esprit est là. Sa consolateur. Et ton esprit est là. Libérant mon cœur. Et ton esprit est là. Et pour nous sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Par ta sainte présence, que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens nous cachés, garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit. Dans ta gloire, viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondant. Nous allons voir ta puissance.
Amen, Seigneur, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que nous aussi on puisse puisse t'accueillir dans nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse être un temple à tes yeux, que notre vie puisse être refléter ta gloire, Seigneur, et qu'on puisse vivre par toi, Seigneur. Viens, pose ton Saint-Esprit sur nous, Seigneur. On est prêt à te recevoir.
Issu du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qu'il nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'esprit, et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons nos médisances, que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule fois, au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Les élus de tous les temps, avec les anges et nous si présents, passons l'éternité ensemble à t'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes ces disciples, à l'amour qui nous unira. N'avons qu'un seul but, élever Jésus, que le Saint-Esprit soit répandu.
Je vous invite à vous asseoir.
Jésus est vivant. Vous vous rappelez? Il est ressuscité. Ça veut dire qu'il était mort, mais qu'il est de nouveau vivant. Et pendant 40 jours, ça fait un peu plus d'un mois, et pendant 40 jours, il reste avec ses amis. Alors il les a rencontrés chez eux à la maison, il les a rencontrés en voyage, sur un chemin où ils marchaient. Il les a rencontrés au bord du lac, où il s'était remis à pêcher. Et pendant toutes ces rencontres, ils ont discuté, parlé. Peut-être que les disciples ont pensé, Jésus va rester avec nous maintenant, pour toujours, ça sera formidable. Mais Jésus leur a dit quand même, vous savez, je vais bientôt repartir chez mon père. Repartir chez son père. Puis alors nous, on va rester tout seul? Non, je vais vous envoyer quelqu'un qui sera toujours avec vous. Moi, je vais, je viens, je me déplace, je ne peux pas être toujours avec vous. Mais celui que je vais vous envoyer, qui s'appelle le Saint-Esprit, il sera toujours, toujours, toujours avec vous. Quand vous mangez, quand vous vous levez le matin, quand vous allez travailler, quand vous allez pêcher, même quand vous dormez. C'est extraordinaire, non? Et ils ont continué comme ça à discuter pendant 40 jours. Au bout de ce temps-là, Jésus et ses amis sont partis sur une colline près de Jérusalem, toujours en discutant, je suis sûre, toujours en discutant. Ses amis lui disaient, « Mais franchement, quand c'est que tu seras le roi d'Israël ?» Alors Jésus a dit, « Mais je ne peux pas savoir. » C'est Dieu, mon Père, qui le sait. Moi, je ne sais pas. Les anges dans le ciel, ils ne le savent pas non plus. Ah bon? Et les voilà sur la colline, quand tout à coup... Mais, Jésus, qu'est-ce que tu fais? On voit Jésus qui monte, ses pieds ne touchent plus par terre, il monte... Et tout à coup, un énorme nuage le cache. Alors les amis de Jésus le regardent au ciel. Mais il n'y a plus personne. Mais il est où Jésus? Alors en se retournant, il voit derrière deux anges. On sait que c'est des anges parce qu'ils étaient tellement brillants. Et les anges leur disent, mais pourquoi vous regardez en l'air? Pourquoi est-ce que vous cherchez Jésus en l'air? Il vous l'a dit, il est parti rejoindre Dieu son Père. Mais je vais vous dire un secret. Jésus, comme il est parti, un jour, il reviendra. Vous pouvez l'attendre, c'est sûr. Eh bien moi je te dis, il y a plus de 2000 ans que Jésus est parti, on l'attend toujours. Et une chose est sûre, on sait qu'il va revenir. Donc, Jésus est parti rejoindre son Père. C'est une fête qu'on fête encore aujourd'hui qui s'appelle l'Ascension. Et 10 jours plus tard, 9h du matin, peut-être qu'ils avaient déjà pris le petit déjeuner, ils étaient ensemble, il y a eu un bruit, mais un vacarme. Et du vent qui a soufflé, et on aurait dit que la maison allait tomber, mais un vacarme épouvantable. Et tout d'un coup, dans la maison, des espèces de petites flammes de feu, mais pas du feu qui brûle. Les rideaux, ils sont restés intacts. Hein. Eh bien, ces petites flammes de feu se sont posées sur les amis de Jésus, et tout à coup, c'était une explosion de joie. C'était ce que Jésus avait promis, le Saint-Esprit. Mais pendant ce temps dehors, il y avait une fête à Jérusalem. C'était la fête des moissons. Ça veut dire qu'il y avait énormément de monde qui était venu de tous les pays voisins, depuis l'Égypte, la Syrie, de droite et de gauche, toutes sortes de gens qui parlaient toutes sortes de langues. Eux aussi, ils ont entendu le bruit. Peut-être qu'ils ont aussi vu les flammes. Ils se sont dit, mais il va y avoir un incendie. Et ils ont accouru dans la rue, ils se sont mis dehors. Et tout à coup, on a vu les amis de Jésus qui sortaient, les bras en l'air, qui chantaient, qui riaient, qui disaient, waouh, le Saint-Esprit, on l'a. Alors les gens dehors ont dit, mais c'est quoi ces gens-là, à 9h du matin? Mais ils ont trop bu, ils sont ivres. Alors Pierre, l'ami de Jésus, a dit, non, c'est pas ça, on n'a pas trop vu, c'est 9h du matin. Mais on va vous dire ce qui s'est passé. Vous vous rappelez de Jésus, ce Jésus qu'on a tué? Eh bien, il est vivant aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'il est vivant avec nous. Et il a parlé longtemps de Jésus. Mais comme je vous ai dit, il y avait des gens qui parlaient la langue des Égyptiens, des Grecs, des Romains, des Syriens. Et bizarre, tout le monde comprenait ce que disait Pierre. Il n'y avait pas de traduction, mais les gens comprenaient. Et ils étaient hyper surpris. Alors Pierre leur a dit, écoutez, la seule chose qui vaille la peine aujourd'hui, c'est de croire que Jésus, le Fils de Dieu, est vivant et qu'il est avec nous pour toujours. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont écouté et qui se sont mis à marcher avec Jésus.
Ce sera une belle introduction pour le message. Merci aussi au Bâché pour votre service aussi parmi ce que vous faites. Quoi. C'est vraiment, vraiment génial. Quoi. Moi, je suis toujours touché. Et je vais prier pour les enfants. Je te remets les enfants, Seigneur, qu'ils puissent toujours plus te connaître. Et je te remets aussi les moniteurs, qu'ils vont partager ta parole. Et je te prie aussi pour nous, aussi pour nous ouvrir nos oreilles et nos cœurs aussi à ce que Philippe va nous transmettre de ta part. Amen. Alors, bonne matinée les enfants. À tout à l'heure.
Bonjour à chacun, chacune. Nous allons poursuivre ce matin la série que nous avons entamée il y a 15 jours sur le livre des Actes, livre que nous étudions également, que nous survolons également avec les jeunes du Caté le vendredi soir, tous les 15 jours d'ailleurs. Ce prochain vendredi, il y a Caté, n'oubliez pas, et puis ça va être une super soirée. Avant d'être l'occasion d'un pont, la Pentecôte, c'est une fête chrétienne. Et avant d'être une fête chrétienne, la Pentecôte, c'est une fête juive. Juive. C'est la fête des moissons, lesquelles moissons se font pour des raisons bien compréhensibles, plutôt en Israël que chez nous. Et puis c'est aussi la Pentecôte, la fête du don de la loi à Moïse sur le mont Sinaï. Le contexte. Jésus est mort lors de la fête de la Pâque à Jérusalem. Et si nous nous transportons à Jérusalem dans les semaines qui ont suivi l'événement à l'approche de la Pentecôte, nous pouvons imaginer un peu l'ambiance effervescente de tout le pays, des gens à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Ils viennent de loin, de très loin, depuis les frontières de l'Inde jusqu'à Rome. Il y a de la ferveur religieuse dans l'air. Mais de son côté, l'armée romaine est sur le qui-vive. Elle craint des manifestations. Il faut dire que 2 ans avant, Hérode Antipas a fait tuer un grand prophète, Jean-Baptiste. Et il y a 5 semaines, pas plus, le même Hérode Antipas a été complice de l'exécution d'un autre grand prophète, Jésus de Nazareth, condamné par les grands prêtres, mis à mort par le gouverneur romain, Ponce Pilate. Ce Jésus de Nazareth a été condamné au châtiment ultime et honteux, la croix. Il a été mis à mort. Sa mort a été constatée. Il a été enterré. Le peuple attend toujours son Messie. Le peuple attend toujours son libérateur, le vrai, enfin, celui qui ne se laissera pas tuer comme un rat et qui le libérera de l'oppresseur, comme au temps du roi David. Un libérateur, un guerrier. Mais voilà qu'un petit groupe d'environ 120 personnes n'attend plus le Messie. Certains d'entre eux ont vu Jésus vivant après sa mort et ils en ont témoigné. Quelques-uns l'ont même vu s'élever vers les cieux 40 jours après sa résurrection, l'ascension. Et d'autres ont cru leur témoignage. D'autres se sont associés à leur attente. Et dans ce groupe de 120, dont nous parle Acte 2, tous savent que le verdict des autorités à l'égard de Jésus de Nazareth, ce verdict des autorités a été invalidé par la plus haute instance qui soit. Dieu lui-même, en ressuscitant Jésus, a déclaré que celui-ci est juste, qu'il est le Messie, qu'il a mené à bien la tâche qui lui était confiée, qu'il a donné sa vie en rançon pour des multitudes, qu'il a été agréé par Dieu, qu'il a réussi sa mission et que désormais, sa justice peut demeurer sur nous parce qu'il a pris notre injustice. Le sacrifice de Jésus à la croix, qui a accompli l'antique promesse du livre de la Genèse. Un sauveur devait venir. Ce sauveur serait homme et Dieu à la fois. Il devait souffrir. Mais finalement, il triompherait en vainqueur pour être en bénédiction à toutes les nations de la terre et accomplir le salut d'une multitude d'hommes et de femmes, le nôtre. La croix, c'est la pointe de l'histoire. Après l'ascension, c'est donc un groupe soudé, un groupe qui prie, un groupe qui attend. Ils attendent que se réalisent 2 prophéties très récentes. La première de ces 2 prophéties, elle remontait à 2 ou 3 ans seulement. Jean-Baptiste avait dit qu'il serait suivi par quelqu'un de plus grand que lui, quelqu'un qui baptiserait dans l'esprit et dans le feu. Matthieu 3, verset 11. La deuxième prophétie dont ils attendaient la réalisation, elle remontait à 10 jours seulement. 10 jours. Jésus avait dit que la promesse de Jean-Baptiste, comme quoi il baptiserait dans l'Esprit et le feu, cette promesse se réaliserait rapidement. Acte 1, verset 5. Il fallait donc rester à Jérusalem et attendre à Jérusalem. Est-ce qu'ils font qu'attendre ? Pas vraiment. Le texte de Acte 1 nous dit qu'en attendant, ils prient. Qu'en attendant, ils prient tous ensemble. Avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frangins de Jésus. Ils prient tous ensemble. Et c'est certainement la meilleure chose à faire. Quand on attend quelque chose, quand on attend que quelque chose se passe, c'est certainement la meilleure chose à faire. Prier. Et parfois prier ensemble. Et souvent prier ensemble. Dans l'attente, la prière, c'est jamais du temps perdu. Certainement qu'ils lisent aussi la Bible, enfin l'Ancien Testament, qu'ils en tirent de nouvelles leçons, qu'ils repassent en mémoire ce qu'ils ont appris de Jésus lui-même. Parce que dans l'attente, la lecture, la méditation de la parole de Dieu, ce n'est jamais du temps perdu, jamais. Mais voilà, leur mission dans le monde n'a pas encore commencé. L'Église n'est pas encore née. Ils sont entre eux, pas pour longtemps, parce que c'est alors que se passe ce que l'on fête désormais à Pentecôte. Non plus la fête des moissons seulement, non plus la fête du don de la loi seulement, mais la fête du don de l'Esprit, l'anniversaire de la création de l'Église. Et je vous invite à écouter le début de ce récit. Prisca va nous faire la lecture dans Acte 2, les versets 1 à 21.
C'est dans la version Semeur. Acte 2, 1 à 21. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de chez tous les peuples du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. « Hein, c'est le vin doux, disaient-ils, ils ont trop bu. » Alors Pierre se leva, entouré des 11, et d'une voix forte, il dit à la foule : « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9h du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions. Vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là. Ils prophétiseront. Je ferai des miracles et là-haut dans le ciel et ici-bas sur terre, des signes prodigieux, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui invoqueront le Seigneur.
Voilà donc un événement vraiment extraordinaire. On entend dehors, dans la rue, le bruit d'un vent fort. Des langues de feu se posent sur la tête de chacun. Ils sont remplis du Saint-Esprit et parlent en d'autres langues. Il n'est pas étonnant que la foule, verset 12, cherche des explications. Pas étonnant. Et les explications que la foule cherche, c'est l'apôtre Pierre qui va les donner. Et le premier élément dans sa démonstration est l'affirmation suivante. Ceci, donc ce qui se passe maintenant, c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Ce que vous vivez maintenant, le vent fort, les langues, les prophéties, c'est ce qui jusqu'à présent avait été annoncé par le prophète Joël, mais qui maintenant, se passe. Vous vivez, vous là maintenant, l'accomplissement en direct d'une vieille prophétie, une prophétie ancienne. Joël 3, les versets 1 à 15. Autrement dit, le plan de Dieu est en marche depuis des siècles, et là, à la Pentecôte, ce plan de Dieu en marche depuis des siècles s'accomplit. C'est le moment. Le langage de Joël, il est passablement poétique. On va essayer de le décortiquer un peu, et j'espère que nous le trouverons pertinent. Verset 17 de notre texte. Dans les derniers jours, ou dans les jours de la fin des temps. Je sais que quand je lis ça, que nous serions tentés de penser, nous, qu'il s'agit là de la fin du monde, dans les derniers jours. Mais ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Dans la Bible, les derniers jours désignent souvent la dernière période de l'histoire, ou l'ère nouvelle que le Messie a inaugurée. Dans cette perspective, en fait, nous vivons depuis plus de 2000 ans, 2018 ans en gros, dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps, depuis 2000 ans. Il y aura une fin, mais il n'y aura pas d'autres grandes étapes avant la fin. La venue de l'Esprit à la Pentecôte signifie l'ouverture du dernier chapitre de l'histoire. Si nous pensons que ce dernier chapitre de l'histoire est long, je fais partie de ceux qui pensent qu'il est long, ce dernier chapitre, il faut savoir que le chapitre précédent était encore plus long, qu'il a fallu du temps depuis les origines du monde, qu'il a fallu des annonces, des préparatifs, des étapes pour que le Sauveur du monde naisse et qu'il accomplisse l'antique promesse de la victoire sur le péché. Qu'est-ce qui change alors dans cette dernière étape? Eh bien, ce qui change, c'est que l'Esprit de Dieu est répandu sur tout le monde. Le verset 17 le dit simplement, l'Esprit de Dieu est répandu sur tout le monde, sur toute chair, sur tous. Avant, quelques Israélites seulement recevaient le don de l'Esprit. Moïse, par exemple. Quelques prophètes. L'un ou l'autre juge. L'un ou l'autre roi. Moïse, un jour, a même prié pour que l'Esprit soit répandu sur tout le peuple. Nombre 11, verset 29. Pour que tout le peuple reçoive l'Esprit. Pour que tout le peuple prophétise. Mais cette prière ne s'est pas accomplie. Ce n'était pas encore le moment. Et le prophète Joël annonce donc la naissance d'un peuple où tous et toutes seront remplis de l'Esprit. Les fils et les filles, les jeunes et les vieux, les esclaves, les hommes et les femmes libres. Et on peut même noter ici une spécificité de l'évangile, qui est la valorisation de personnes qui jusque-là étaient souvent laissées de côté. Les femmes, les jeunes, les esclaves. Mais là, avec le nouveau paradigme de la Pentecôte, avec l'ouverture du dernier chapitre, hommes et femmes, jeunes et vieux, esclaves et hommes libres, reçoivent l'Esprit. C'est la nouvelle alliance où l'on n'a plus besoin de se dire l'un à l'autre « Et mon frère, et ma sœur, connais le Seigneur !» Parce que Jérémie dit qu'à partir de ce moment-là, tous le connaîtront. Il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de privilège dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiennes. Nous connaissons le Seigneur. Vous le connaissez. À la Pentecôte, les disciples annoncent donc la parole de Dieu à des Juifs d'une douzaine de nations et à des convertis païens. Nous sommes à un pouce, là, de la mission universelle dont Jésus charge ses disciples quelques jours plus tôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On est à un pouce du début de cette grande mission. Et là, ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces vieux, ces esclaves sans droit jusqu'ici, ils vont prophétiser. Ils vont prophétiser. Non pas dans ce sens qu'ils vont écrire de nouvelles pages dans la Bible, mais en tant que témoins, ils vont parler de la part de Dieu. C'est en train de se jouer là, sous les yeux des passants, à la suite de Jésus. Les apôtres d'abord seront des prophètes par excellence. Nous lisons dans la Bible que l'Église a été fondée sur la parole des prophètes. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Mais d'autres dans le Nouveau Testament vont très rapidement, et on le verra dans le livre des Actes, recevoir un ministère prophétique reconnu, sans être des apôtres. Agabus, par exemple, n'est pas un apôtre. Les quatre filles de Philippe ne sont pas des apôtres. Mais elles vont avoir un ministère prophétique reconnu. Et dans l'Église, tous reçoivent l'Esprit. Tous prophétisent. Tous sont témoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le passage d'aujourd'hui, les disciples annoncent les merveilles de Dieu dans d'autres langues qui sont comprises par les gens de la rue. Et Luc utilise pour ça un mot inhabituel qu'il utilise seulement 3 fois dans le livre des Actes, qui signifie ceci, parler de la part d'un dieu. C'est du grec. Apophthengomai, 3 fois. Parler de la part d'un dieu. Le parler en langue, ici, en acte 2, ce n'est pas une louange adressée à Dieu, mais c'est une proclamation. C'est des mots intelligibles qui sont dits, que les gens comprennent dans leur langue. Et ailleurs dans la Bible, notamment dans 1 Corinthiens 14, le verbe prophétiser va encore trouver d'autres nuances, comme encourager, comme exhorter, comme consoler, comme instruire, comme avertir, et très rarement dans le sens de prédire. Tout ceci pour dire que tous les enfants de Dieu, tous les fils et les filles de Dieu, peuvent parler de la part de Dieu, dans l'Église et dans le monde. Si certains sont mis à part pour ça, dans le cadre d'un ministère spécialisé, reconnu, cela n'enlève rien au privilège et à la responsabilité du chrétien, de la chrétienne lambda. C'est un prophète, c'est une prophétesse. On va l'écouter, on va le regarder, on va la tester pour voir si il est, elle est crédible, mais il faut qu'il parle, il faut qu'elle parle. Nous devons dire l'Évangile. Nous devons dire la bonté de Dieu. Nous devons dire la grâce de Dieu. Notre monde qui manque de grâce a besoin d'entendre la grâce de Dieu. Voilà donc 2 points essentiels, incontournables. L'Esprit sera répandu sur tous et tous et toutes parleront en prophète. Je trouve que c'est tellement clair, que c'est tellement motivant, que c'est tellement responsabilisant. Bien sûr qu'il y a d'autres aspects de la prophétie de Joël qui sont d'une interprétation plus délicate. J'en mentionne rapidement 2 avant de conclure. Au rang des choses plus délicates, au verset 17, les visions et les rêves. Prophètes de l'Ancien Testament en avaient souvent des visions et des rêves. C'était même la forme favorite de la révélation de Dieu. Le prophète voyait quelque chose ou il entendait quelque chose et il le restituait. Ézéchiel, par exemple. Il voit ce champ d'ossements, ce qui va se passer dans le champ d'ossements, et il le restitue. Donc il voit un truc et il le restitue. Les visions et les rêves. Qu'en est-il maintenant ? Je dois vous avouer que je ne sais pas trop. D'une part, dans certains pays hostiles à l'Évangile, nous avons d'abondants récits de personnes qui se sont tournées vers Jésus-Christ suite à des rêves. La chose se passe peut-être par chez nous aussi. Parfois, on peut dire que c'est vraiment Dieu qui a parlé. Parfois, c'est simplement l'imagination humaine. Alors quoi ? C'est la Bible en tant que parole de Dieu qui va nous permettre d'examiner toutes ces choses et de retenir ce qui est bon. Une bonne question à se poser en toutes circonstances, et en particulier si nous sommes confrontés à ces questions de vision et de rêve, c'est la question suivante qui revient au moins 2 fois dans le Nouveau Testament. Que dit l'Écriture ? Romains 4, verset 3, Galates 4, verset 30. Que dit l'Écriture ? Parce que Dieu se révèle essentiellement par elle. Le deuxième aspect moins évident, c'est au verset 19 et 20, les prodiges dans le ciel et les signes sur la terre. Des signes apparemment menaçants, terrifiants. Des signes qui évoquent les plaies qui ont frappé l'Égypte lors de l'Exode. Ou les signes de la présence de Dieu à ce moment-là, la colonne de feu, les manifestations effrayantes du mont Sinaï. Des signes qui font penser à des éruptions volcaniques envoyant dans l'atmosphère des tonnes de poussière qui changent l'éclat du soleil et de la lune. Des signes qui font penser au discours de Jésus lui-même sur la fin des temps, Matthieu 24 par exemple. Est-ce que l'on peut dire de sûr? C'est qu'avant le jour du Seigneur, avant le retour du Seigneur, qui sera le jour du jugement, il y aura des signes extraordinaires. Mais même là, même jusqu'à la dernière extrémité de l'histoire humaine, quiconque priera le Seigneur sera sauvé. Quiconque priera le Seigneur sera sauvé. Alors avis à celles et ceux qui cherchent, à celles et ceux qui doutent, à celles et ceux qui tâtonnent, à celles et ceux qui luttent. Vous pouvez, nous pouvons nous tourner vers Dieu, le prier et lui faire confiance. Quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Hommes ou femmes, jeunes ou vieux, riches ou pauvres, connus ou inconnus, tu t'adresses à Dieu, tu l'appelles au secours, il vient te sauver. En tant qu'Église, alors, notre mission, me semble-t-il, c'est d'être témoin auprès de tous et toutes des prophètes, des prophétesses de notre génération, été comme hiver, à la campagne et en ville, à Mérin et au loin. Et jusqu'à la fin des temps, les hommes et les femmes auront la possibilité de se tourner vers Dieu pour être graciés. Voilà une perspective qui nous fait donc embrasser du regard, non pas Mérin seulement, mais le monde entier. Non pas octobre 2018 seulement, mais le temps et l'éternité. Amen.
Je vous invite à prendre un petit moment de silence, un petit moment de recueillement où vous pouvez essayer de vous exprimer si vous le souhaitez.
Esprit, avec ton esprit.
C'est dans ta présence, Seigneur.
Ta présence, Seigneur, je m'attends à toi, et soif de ta présence, Jésus, tu marches devant moi, dans le chemin, prends-moi par la main. Ta présence, oh Jésus, tu marches devant moi, dans ta main, prends-moi par la main et conduis-moi vers toi.
Saint-Esprit, descend sur nous ce matin et que cette pluie descende et nous abonde. Je vous invite à prendre ce temps de scène maintenant, nous rappeler du sacrifice que Jésus a fait pour nous. Il a pris sur lui nos souffrances, nos péchés, il les a pris à la croix. Il les a pris à la croix pour qu'on soit libre. C'est ce mot qui m'est resté pendant un sacré moment quand je préparais ce temps. Libre, libre de pardonner aussi, et de pouvoir avoir cette intimité précieuse avec notre papa. Je vais aussi lire l'institution de la scène dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Merci pour ce repas où nous pouvons nous souvenir de ce que tu as accompli à la croix pour nous. Amen. J'invite les
servants.
Rappelez aussi que il y a Il y a du jus de raisin qui est dans les soucoupes. C'est violet, donc c'est du jus de raisin. Autrement, Philippe et moi, on aura la coupe. Ceux qui veulent, ben, lever la main. Merci.
Thank you. clôturer ce moment, je vous invite à chanter le Notre Père. Donc je vous invite à vous lever pour ce chant.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles, amen. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles, amen.
Amen. Et la chose sérieuse, on va passer à l'offrande. C'est toujours un privilège de savoir, de donner. Donner, c'est aussi de donner avec notre cœur. Je n'ai pas d'autre chose trop à dire, pas trop à allonger, mais donner vraiment avec votre cœur, et c'est vrai que c'est pour la gloire de Dieu, quoi. L'avancement de son règne.
Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverse ta bienveillance. Béni soit ton nom.
Seigneur, je te remets aussi cette offrande, mais je veux te demander de garder aussi ceux qui vont s'en occuper, que tu puisses les bénir et qu'ils puissent trouver ouais, où vraiment cet argent doit aller. Amen. Place aux annonces.
Alors, je suis contente parce que ça commence à arriver, toutes les affaires que vous apportez pour les paquets de Noël, ça fait plaisir. J'ai mis deux grilles sur le panneau, là, vous les voyez là aussi, dans le foyer, pour vous montrer un petit peu la progression et tout. Alors ça, c'est ce qu'on avait reçu pendant la semaine, donc ça ne tient pas en compte ce qui est arrivé ce matin. Et puis ça vous montre aussi un peu tout ce qui nous manque. Si vous pouvez apporter le maximum dimanche prochain, parce qu'on va commencer à faire les paquets, en particulier les paquets des enfants, on va les faire donc dimanche prochain pendant le culte avec les enfants de l'école du dimanche. Et si vous avez des choses à apporter pour les paquets pour enfants dimanche prochain, ce serait bien de les apporter en bas avant le début du culte pour qu'on puisse vraiment remplir au maximum les paquets. Les enfants auront du plaisir s'ils peuvent vraiment remplir un paquet jusqu'au bout. Et puis, trois jours après, donc, le mercredi 7 novembre, on commence à faire les paquets l'après-midi, entre 14h et 16h30. Vous pouvez toujours vous inscrire encore sur le panneau qui est dans le foyer. Merci pour votre aide, on apprécie beaucoup. Et je rappelle juste donc, vous en tenir vraiment à la liste des choses, strictement à la liste des choses qu'on met dans les paquets. Pas de denrées alimentaires périmées ou qui ne vont pas très loin, pas de jouets usagés, mais des choses neuves, parce que c'est un cadeau. Je vous remercie beaucoup.
invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. J'ai à cœur de vous l'adresser avec ces deux versets de Romains 8. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu un esprit qui manifeste que vous êtes des fils et des filles adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Avec cette certitude, vous êtes, nous sommes enfants de Dieu. Allez dans la paix, accompagnés par celui qui est notre Père, que sa grâce vous soit sensible. Belle semaine. Amen.